comme l'épaisseur du verre déformait la beauté du spectacle et que la position du tigre gênait ses mouvements, je crus de mon devoir d'enlever le bocal. Le brigadier retomba dans sa position naturelle, ses pinces repliées et ses six pattes sur le sol. Mais au bout de chacune d'elles, il y avait quatre fourmis qui s'accrochaient implacablement par leurs mandibules tétanisées, tandis qu'elles s'agrippaient au gravier. Ainsi maîtrisé par ses lilliputiennes, le tigre ne pouvait pas plus bouger que Gulliver. Cependant, de ses pinces restées libres, il attaquait tour à tour chacun de ses ancrages et en ravageait le personnel. Mais avant même que les bestioles tronçonnées fussent retombées de ses mandibules, d'autres avaient pris leur place et s'étaient à recommencer. Je me demandais comment pourrait évoluer cette situation qui paraissait stabilisée, je veux dire fixée dans un cycle immuable, lorsque je remarquais que les réflexes des pattes ravisseuses n'étaient plus ni aussi rapides ni aussi fréquents. J'en conclus que le brigadier commençait à perdre courage à cause de l'inefficacité de sa tactique et qu'il allait sans doute en changer. En effet, au bout de quelques minutes, ses attaques latérales cessèrent complètement. Les fourmis abandonnèrent aussitôt sa nuque, son buste, son dos, et il resta debout, immobile, les pinces en prière et le torse presque droit sur les six grandes pattes qui frémissaient à peine. Paul me dit, il réfléchit. Ses réflexions me parurent un peu longues, et la retraite des fourmis m'intriguait. Je me couchai donc à plat ventre, et je découvris la tragédie. Sous la queue à trois pointes du tigre pensif, les fourmis avaient agrandi l'orifice naturel. Une file y entrait, une autre en sortait, comme à la porte d'un grand magasin à la veille de la Noël. Chacune emportait son butin, et les diligentes ménagères déménageaient l'intérieur du brigadier. Le malheureux tigre, toujours immobile et comme attentif par une sorte d'introspection à ce qui se passait en lui-même, n'avait pas les moyens, faute de jeu de physionomie ou d'expression vocale, d'extérioriser sa torture ou son désespoir, et son agonie ne fut pas spectaculaire. Nous ne comprîmes qu'il était mort qu'au moment où les fourmis des ancrages lâchèrent le bout de ses pattes et commencèrent à dépecer la mince enveloppe qu'il avait contenue. Elles scièrent le cou, coupèrent le buste en tranches régulières, épluchèrent les pattes et désarticulèrent élégamment les terribles pinces comme fait un cuisinier pour un homard. Le tout fut entraîné sous terre et rangé au fond de quelques magasins dans un ordre nouveau. Il ne resta plus sur le gravier que les belles élytres vertes qui avait volé glorieusement au-dessus des jungles de l'herbe et qui terrorisait la proie ou l'ennemi. Méprisées par les ménagères, elles avouaient tristement qu'elles n'étaient pas comestibles. C'est ainsi que se terminèrent nos études sur les mœurs de la menthe religieuse et sur la diligence de laborieuses fourmis. « Pauvre bête, me dit Paul, il a dû avoir une belle colique. »« C'est bien fait pour lui, lui dis-je. Il mange des sauterelles toutes vivantes, et même les cigales, et même les papillons. Papa te l'a dit, c'est un tigre. » Et moi, la colique des tigres, je m'en fous.